présente Léonard de Vinci, la biographie de Walter Isaacson, lu par François Hatt. Introduction. Je suis aussi peintre. Sur le point de passer le cap des 30 ans, Léonard de Vinci adresse au duc de Milan une lettre dans laquelle il détaille les raisons pour lesquelles celui-ci devrait l'engager. À l'époque, il rencontre à Florence un certain succès en tant que peintre, mais il peine à terminer ses commandes. Il est donc à la recherche de nouveaux horizons. Dans les 10 premiers paragraphes du document, il vante ses compétences d'ingénieur et notamment sa capacité de concevoir des ponts, des voies navigables, des canons, des véhicules blindés et des bâtiments publics. Ce n'est qu'au 11e paragraphe, à la fin de sa missive, qu'il ajoute qu'il est également artiste. « De même en peinture, mon œuvre peut égaler celle de n'importe qui », écrit-il. Et il ne ment pas. Il va, dans les années suivantes, créer deux des plus célèbres tableaux de l'histoire, la Seine et la Joconde. Pourtant, il se considère autant comme un artiste que comme un scientifique et un ingénieur. Avec une passion enjouée et obsessionnelle, il étudie de manière novatrice l'anatomie, les fossiles, les oiseaux, le cœur, les machines volantes, l'optique, la botanique, la géologie, la mécanique des fluides et les armes. Il devient ainsi l'archétype de l'homme de la Renaissance, une source d'inspiration pour ceux qui croient que tous les éléments de l'œuvre infinie de la nature, comme il l'écrit, sont entremêlés et merveilleusement agencés. Sa capacité d'associer art et science, symbolisée par son homme de Vitruve, parfaitement proportionné et représenté, jambes et bras écartés, dans un carré et un cercle, en a fait le génie le plus créatif de l'histoire. Ses explorations scientifiques modèlent son travail artistique. C'est après avoir détaché la peau du visage de cadavre et tracé les muscles moteurs responsables du mouvement des lèvres qu'il peint le sourire le plus célèbre du monde. Il étudie des crânes humains, puis dessine les différentes couches formées par les os et les dents avant de traduire sur toile l'agonie squelettique de Saint Jérôme. Il explore les principes mathématiques de l'optique et montre comment les rayons lumineux frappent la rétine pour exécuter des trompe-l'œil magiques et la célèbre perspective de la Seine. En appliquant ses études de la lumière et de l'optique à son travail artistique, il passe maître dans les jeux d'ombre et de perspective pour conférer du volume à des objets représentés en deux dimensions. « En peinture, déclare Léonard, l'essentiel est que les corps représentés apparaissent en relief. » C'est en grande partie grâce à son travail que la perspective est désormais considérée comme l'innovation suprême de l'art de la Renaissance. Au fil des années, Léonard poursuit ses recherches scientifiques, poussé par l'envie de servir son art et par un allègre instinct de sonder la beauté profonde de la création. Lorsqu'il tâtonne sur une théorie expliquant pourquoi le ciel est bleu, il ne cherche pas seulement à nourrir ses compétences artistiques. Sa curiosité est pure, personnelle et délicieusement obsessionnelle. En étudiant le bleu du ciel, il s'intéresse autant aux aspects scientifiques de la question qu'à son impact artistique. Ensemble, les deux univers contribuent à sa véritable et ambitieuse passion. Apprendre tout ce qu'il est possible de connaître sur le monde et, ce faisant, découvrir la place du genre humain. Il vénère la complétude de la nature et comprend instinctivement l'harmonie de ses motifs récurrents, qu'il décèle dans l'infime comme dans l'infini. Dans ses carnets, il consigne ses observations sur les boucles de cheveux, les remous de l'eau et le tournoiement des vents, puis s'essaye à en établir les principes mathématiques sous-jacents. Au château de Windsor, face au puissant tourbillon des dessins du déluge datant de ses dernières années, j'ai demandé à Martin Clayton, le conservateur, s'il pensait que Léonard les avait réalisés dans une optique artistique ou scientifique. J'ai compris l'incongruité de ma question dès l'instant où je l'ai posée. Je crois qu'il n'aurait pas distingué l'une de l'autre, m'a répondu le spécialiste. Je me suis lancé dans la rédaction de ce livre, car Léonard de Vinci incarne à merveille le fil rouge de toutes mes biographies précédentes. La faculté d'associer différentes disciplines, arts et sciences, sciences humaines et technologies, mère de l'innovation, de l'imagination et du génie. Benjamin Franklin, sujet de l'un de mes ouvrages, était un Léonard de son époque. Malgré ses connaissances scolaires rudimentaires, il est devenu par ses propres moyens un polymathe créatif, le meilleur scientifique, inventeur, diplomate, écrivain et stratège commercial de la Renaissance américaine. Avec un cerf-volant, il a démontré la nature électrique des éclairs, puis conçu une tige permettant de les dompter. Il a aussi créé les lunettes à double foyer, de merveilleux instruments de musique et le poêle à bois à combustion contrôlée. On lui doit également la cartographie du Gulf Stream et l'humour simple et franc propre aux Américains. Albert Einstein, lorsqu'il s'enlisait dans ses recherches sur la théorie de la relativité, sortait son violon et jouait du Mozart. Cela l'aidait à se reconnecter avec les harmonies du cosmos. Ada Lovelace, dont j'ai fait le portrait dans un livre sur les innovateurs, mêlait la sensibilité poétique qu'elle avait héritée de son père, Lord Byron, à l'amour que sa mère portait à la beauté des mathématiques. C'est ainsi qu'elle a imaginé le premier ordinateur universel. Et Steve Jobs ne manquait jamais d'afficher l'image de panneaux routiers figurant l'intersection entre art et technologie à la fin de ses présentations de nouveaux produits. Il adulait Léonard. Il voyait la beauté dans l'art comme dans la mécanique, et son aptitude à les associer a fait de lui un génie. Oui, c'était un inventif endiablé, un curieux passionné et un créatif transdisciplinaire. C'était un génie, mais le terme invite à la prudence. En affublant Léonard de ce titre, on donne l'impression qu'il aurait été touché par la grâce et on en oublie son travail. L'un de ses premiers biographes, Giorgio Vasari, un artiste du XVIe siècle, a fait cette erreur en écrivant à son sujet « Le ciel, dans sa bonté, rassemble parfois sur un mortel ses dons les plus précieux et marque d'une telle empreinte toutes les actions de cet heureux privilégié qu'elle semble moins témoigner de la puissance du génie humain que de la faveur spéciale de Dieu. » Le génie de Léonard est pourtant humain, alimenté par sa volonté et son ambition propre. Au contraire de Newton ou d'Einstein, Dieu ne l'a pas doté d'une intelligence hors norme. Il ne reçoit presque aucune éducation et peut à peine lire le latin ou effectuer de longues divisions. Son génie est de ceux que l'on peut comprendre et dont on peut même apprendre. Il se fonde sur des facultés que nous pouvons nous-mêmes chercher à cultiver, comme la curiosité et l'observation fine. Son imagination en effervescence constante le pousse à flirter avec les limites de la fantaisie. C'est une belle qualité que nous gagnerions à entretenir chez nous-mêmes et à encourager chez nos enfants. Léonard insuffle sa fantaisie à la plupart de ses travaux artistiques et d'ingénierie. Production théâtrale, projet de déviation de cours d'eau, conception de villes idéales, plan de machines volantes. Sa lettre au duc de Milan en est la preuve, puisque les compétences en matière de génie militaire qu'il y décrit se limitent à l'époque à sa pensée. Son rôle initial à la cour n'est pas de concevoir des armes, mais d'organiser des fêtes et des spectacles. Même au sommet de sa carrière, il élabore des engins de combat et de vol généralement plus visionnaires que concrets.